Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin dans la matinale, nous allons parler d'un livre qui vient de sortir. Il s'appelle Compiègne, des ruines à la Renaissance, 1940-1955. C'est édité par La Ville, on en parle avec mes invités. Ce matin dans les studios, Delphine Janot, directrice des musées de Compiègne. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. On est en compagnie également d'Antoine Thorens, directeur des bibliothèques de la ville de Compiègne.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on accueille pour la première fois Frédéric Guillon, directeur des archives de Compiègne et son aglo. Bienvenue.
Bonjour à tous.
On va parler donc de ce livre qui vient de sortir, qui est actuellement disponible à la librairie des Signes, également à l'Office du tourisme de Compiègne, mais également peut-être dans les musées, c'est ça ?
Oui, Delphine, ouais. Dès qu'on sera réouvert au public, effectivement.
Ah oui, c'est vrai que c'est encore fermé, c'est vrai.
Malheureusement.
Donc le bouquin vient de sortir, on va parler, on a une heure pour présenter ce livre. Vous pouvez nous présenter un petit peu le premier volume qui est sorti l'année dernière ?
Il est sorti en 2018 à l'occasion des commémorations du centenaire. Et c'était un ouvrage qui avait été demandé par la municipalité et qui avait été réalisé par un groupe d'historiens et aussi de représentants des différents établissements patrimoniaux, déjà archives, bibliothèques, musées, et qui avait été donc publié, édité par la ville déjà, et tiré à 1000 exemplaires et remis notamment en cadeau aux représentants des différents pays lors des commémorations du 11 novembre 2018, mais aussi vendu dans les différents points de vente de la ville et largement diffusé à cette occasion.
C'est quoi la genèse du deuxième volume, du volume numéro 2, des ruines à la Renaissance ?
Bon, déjà, nous avions vraiment apprécié de travailler ensemble sur le premier opus, mais l'idée est née en fait d'un don d'une famille qui a hérité d'un patrimoine assez incroyable, puisqu'ils ont mis à jour dans leurs archives, dans leurs greniers, des centaines de milliers de photographies, mais aussi de documents de toute nature, de l'ordre architectural. Et ils nous les ont proposés, ils nous les ont présentés une première fois, et nous, on est tombés vraiment, vraiment en admiration devant à la fois le volume, mais aussi la qualité des différents documents, et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, au départ, on a essayé de savoir de quelle période il s'agissait, de trouver un peu l'origine des documents et de la collection. Et puis, la famille était ouverte à un éventuel don à la ville. On a aussi, après, nourri un projet d'exposition, et puis, finalement, l'idée du livre a fait son chemin. Une idée qui a été proposée à M. Marigny, le maire de Compiègne, qui a trouvé l'idée très enthousiasmante et qui a vraiment voulu encourager le groupe d'historiens et les directeurs d'établissement à le créer finalement. Et nous avons mis à peu près un an à l'écrire.
Antoine ?
Oui, c'est très intéressant parce qu'on est dans la même démarche de coopération entre les services de la ville, donc les institutions culturelles qu'on représente, les musées, les bibliothèques, les archives, et les historiens locaux. On a la chance d'avoir deux sociétés historiques, la Société historique de Compiègne, qui date de 1868, et la Société d'histoire moderne et contemporaine de Compiègne, qui date de 1973, si je ne me trompe pas, qui sont deux sociétés amies, qui ont des méthodologies un peu différentes, mais qui travaillent très souvent ensemble. Et ça nous a permis de mettre en œuvre une méthodologie dans le premier tome comme dans celui qu'on sort ces jours-ci, c'est-à-dire s'appuyer sur des sources, toujours aller vers la source historique, donc avec une méthodologie d'historien, mais utiliser ces sources pour faire quelque chose de très accessible. Et ce livre, il a vocation à être, j'allais dire lu, mais en fait pas seulement lu, à être regardé et à être utilisé par n'importe qui.
Comment on met en place des synergies entre les différents établissements, entre les musées, entre les bibliothèques et entre les archives ? C'est quoi votre convergence, à part le fait que vous soyez tous un établissement municipal ? Delphine, peut-être ?
Alors, effectivement, pour ce deuxième volume, mes collègues Frédéric et Antoine se sont tournés assez naturellement vers moi, vers les musées. Pourquoi ? Parce que nous avions conçu une exposition en 2018 dans la salle du Centre Antoine Vivenel, donc la salle des expositions temporaires du musée Antoine Vivenel. Et nous avions proposé à cette année-là une exposition qui s'intitulait « Compiègne d'un pont à l'autre ». Et qui retraçait l'histoire des trois principaux ponts de Compiègne, c'est-à-dire l'ancien pont médiéval qui est aujourd'hui détruit, le pont Solferino, donc pour lequel j'ai écrit l'article dans le livre dont nous parlons aujourd'hui, et également le nouveau pont. Donc c'est pour cela en fait que on m'a demandé si je pouvais écrire ce chapitre. Et puis c'est vrai que à cette époque, nous avions déjà présenté quelques tirages inédits d'André Louis Guillaume, qui ici illustre abondamment ce nouvel ouvrage et des photos magnifiques.
Souvent, on pense à la famille Hutin qui a photographié la vie compiénoise avec beaucoup d'habitants, beaucoup de scènes de vie, un peu comme du journalisme. De découvrir un peu cet André Louis Guillaume, c'est une personne qu'on connaissait pas en termes de photographie.
Oui, alors déjà, faut le dire, l'entreprise Hutin est assez incontournable lorsqu'on en veut faire un livre sur l'histoire de Compiègne. Il y a de nombreuses photos de Hutin dans le livre, mais c'est vrai moins peut-être que dans le livre précédent, parce que nous voulions effectivement mettre à l'honneur cet architecte, qui était d'abord un architecte, André Louis Guillaume, mais aussi photographe, assez méconnu dans Compiègne, comme l'architecte principal dont on évoquera certainement tout à l'heure l'existence, Jean Philippot. Et donc André Louis Guillaume n'est pas né à Compiègne, mais il a choisi Compiègne comme ville d'adoption. Il y est mort, enterré, et il a photographié Compiègne de 1941-42 jusqu'à la fin. Et il nous a laissé, par le biais du don de la famille, des centaines, des milliers de négatifs que personne n'a jamais vus. C'est pour cela que cet ouvrage présente des photos que personne n'a encore vues jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des photos qui sont vraiment prises d'un point de vue d'architecte, c'est-à-dire vraiment des photos d'architecture, pas des photos de vie qu'on peut retrouver dans le fond de ce don. Si vous voulez retirer le masque, vous pouvez le retirer, vu qu'on est protégé par les plexiglas. Je pense que ce sera plus simple pour vous.
Oui, alors... Il y a beaucoup de photos, enfin, il a un angle, André Louis Guillaume. D'abord, il prenait des photos dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, il a laissé des photos, de nombreuses photos de pierres, de ruines, de portes, de fenêtres, etc. Ce qui pouvait servir de documentation pour faire son travail d'architecte. Mais comme il était passionné, qu'il avait son propre matériel et qu'il habitait Compiègne, il l'a aussi photographié pour son propre plaisir. Et donc, on voit bien deux séries de photos en fonction de son angle. Par rapport à l'entreprise Hutin et d'autres photographes de cette période-là, c'est vrai qu'il a plutôt choisi de faire des photos seul. Donc il a essayé de photographier la ville lorsqu'elle était relativement peu fréquentée. Donc les photos incarnées, il n'y en a pas tant que cela. C'est pour ça qu'on en a choisi quelques-unes et des très belles avec des déambulations de personnes, notamment dans le cloître, une très belle photo. Mais elle n'était pas si fréquente. Donc c'était aussi une difficulté pour nous bien choisir les bonnes photos parlantes, documentairement intéressantes, mais aussi incarnées. C'était toute la difficulté.
Pour les auditeurs qui nous écoutent, là, qui sont chez eux, qui ont peut-être un fonds patrimonial dans leur grenier, qui ne savent pas quoi en faire, comment ça se passe pour faire un don aux archives municipales? Vous acceptez les dons de tout et n'importe quoi? Question archives?
Pas tout et n'importe quoi. Alors déjà, c'est pour revenir à la question précédente tout à l'heure, qu'est-ce qui peut nous unir? Effectivement, dans nos collections, nous avons tous des collections privées, des collections patrimoniales. Et donc, l'occasion d'un livre, c'est l'occasion aussi de les mêler, de les confronter, de les enrichir. Il y a des gravures, des dessins qui peuvent éventuellement se répondre dans nos différentes collections. Et donc, effectivement, alors on ne prend pas tout et n'importe quoi. On a un travail de sélection. Mais tout ce qui est en lien avec l'histoire du territoire de Compiègne, notamment pour nous, peut intéresser les musées de la ville, les bibliothèques et les archives. Que les particuliers n'hésitent pas à prendre contact avec nous et on se rendra disponible pour étudier la question. Généralement, ça se passe très bien. La prise de contact est simple, par téléphone ou par mail. Et puis après, nous, on peut se déplacer, on peut recevoir les différentes personnes intéressées par des dons. Et on formalise.
Pour les objets, c'est plutôt on se penche du côté des musées. Pour les livres, on se penche du côté des bibliothèques. Et pour tout ce qui est archives personnelles, des papiers, etc., on va vers les archives.
C'est toujours plus compliqué.
Parce que nous, on a des estampes, les musées aussi. On a un gros fonds de photographie à la bibliothèque, les archives aussi. Mais en fait, comme vous l'aurez compris, on travaille beaucoup ensemble déjà. On ne se voit pas toutes les semaines, mais on travaille beaucoup ensemble parce qu'on dépend tous les trois de la direction des affaires culturelles, d'Isabelle Lambert. Et donc, on a des bonnes synergies, on s'entend bien. Et du coup, quand il y a un fonds patrimonial, on discute entre nous pour savoir où est-ce que ça sera le mieux conservé, où est-ce que ça pourra être le plus valorisé pour le public. Parce que le but final, à la fin, c'est que ces collections, quelles qu'elles soient, elles soient visibles par le public. C'est ça notre objectif à nous. On est des services publics. Notre but, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on avait travaillé avec les archives, puisque les archives avaient recueilli ce fonds, donc André-Louis Guillaume de la famille Le Crène, qui est un fonds incroyable. Et Frédéric l'a pas dit parce qu'il est très humble. Mais en fait, pour moi, ce qui est génial dans ce fonds, c'est que les photos sont superbes. André-Louis Guillaume, c'est un architecte, c'est un technicien, mais en fait, c'est un artiste incroyable. Ses photos, elles ont une lumière, elles ont un cadrage, elles sont superbes. Et du coup, on a fait, il y a un an et demi maintenant, une exposition au Cloître Saint-Cornaille. Tout le travail a été fait par les archives, hein, c'est leur fond, c'est leur travail scientifique. Mais on était très heureux, en tant que bibliothèque, de pouvoir accueillir nos amis des archives au Cloître Saint-Cornaille pour présenter ces photos extrêmement intéressantes.
Ça se déroule comment, une séance de travail entre vous trois, enfin vous cinq, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de monde. Il y avait donc en plus les sociétés historiques, il y avait des stagiaires, il y avait des chercheurs. Comment on arrive à coordonner tout ça? Qui c'est qui a pris la coordination de la gestion du bouquin?
Alors la coordination s'est faite avec deux têtes, on va dire ça comme ça. Marc Pilot, qui est un historien de formation, qui est président de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine, qui s'est plutôt chargé de la coordination scientifique, maîtrisant bien la période. Et de mon côté, je me suis plutôt attaché à la coordination, on va dire, éditoriale et iconographique. Ensuite, on a organisé des réunions entre nous, on a créé le sommaire, on a réfléchi au fil conducteur et à l'idée qu'on voulait passer par cet ouvrage. Et ensuite, on s'est réparti les chapitres, on a travaillé sur l'iconographie, chacun sur son propre sujet, puisque le livre est assez découpé et compréhensible aussi de manière indépendante. On peut lire un chapitre et puis en lire un autre, même s'il y a un fil chronologique. Et puis, il y a eu un jeu d'aller-retour entre nous. Et puis, on s'est réunis quand on pouvait fréquemment, en tout cas, tout début du projet. Et puis, pendant le confinement et depuis quelques mois, davantage à distance. Mais c'est un travail vraiment collectif. Donc, on est effectivement 6, 7, 8 à avoir travaillé à la fois au niveau agent vide, mais aussi des sociétés historiques pour faire accoucher ce livre.
D'un point de vue technique, on se dit, il va faire, alors je ne sais pas combien il y a de pages, il va faire 139 pages dès le début. Comment, c'est quoi? C'est des choix de budgétaires qui... Pour tout ce qui est papier, cartonnage.
Alors, on a fait des choix, évidemment, contraints aussi en fonction du budget, mais on a eu quand même une large part aussi on a pu faire parler nos envies. Ce qui était un souhait de notre part et un souhait aussi de la ville, c'était d'être un peu dans l'esprit collection. On a parlé tout à l'heure du premier livre, on voulait être dans une gamme approchante. Et donc, oui, on avait fait 140 pages pour le premier tome. On en a fait 140 pages pour le deuxième, on n'était pas à quelques pages près, mais disons qu'on reste dans le même standard, on a une maquette qui n'est pas similaire, mais qui est aussi proche, et donc ça permet de pouvoir effectivement rester dans le même esprit, en tout cas.
Le but, c'est que le livre...
On fait un choix budgétaire, mais en fait, on fait aussi un choix budgétaire pour les acheteurs.
Oui, ça qui reste à 20 euros.
Nous, notre but, c'était que le livre, il soit utilisé par les Compiégnois et puis par tous ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'urbanisme à Compiègne. Et du coup, le livre coûte 20 euros. On tenait à ce que ça ne dépasse pas 20 euros parce que c'est une somme qui, pour nous, était accessible et était logique pour ce genre de livre et abordable pour tout un chacun.
Pour Delphine et Antoine, je sais que vous n'êtes pas originaire de Compiègne, mais pour Frédéric, vous êtes originaire de Compiègne, vous êtes né à Compiègne?
Non, je ne suis pas né à Compiègne, je suis né à Pont-Sainte-Maxence. Donc,
c'est à côté.
Voilà, c'est pas si loin.
Qu'est-ce que vous avez découvert de la ville que vous ne connaissiez pas, que vous n'auriez pas imaginé? Delphine, peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le livre? Vous l'avez vu là, en fait, il vient d'arriver en plus.
Oui, ouais, tu viens de le découvrir en fait. Et ouais, il est vraiment beau. Donc quelque chose que...
Sur le pont, sur l'écriture de cet article sur le pont, est-ce qu'il y a des choses... Alors ce qui est drôle, c'est que dedans, on voit qu'il y avait tout un projet sur l'ancien pont médiéval qui devait être un peu habillé, on le voit à l'intérieur, il y a des plans où on devait un peu habiller l'ancien pont médiéval, c'est quelque chose
que... Non, ce qui m'a vraiment marqué plus, en fait, dans ce projet, c'est déjà à l'époque, au moment de la conception de l'exposition sur les ponts, mais là, encore plus au moment du travail sur ce livre, c'est la découverte des photographies du fond André-Louis Guillaume. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué dans ce projet, avec cette qualité, cette incarnation des photographies, où pour moi, on est vraiment dans la photographie humaniste qui délivre un vrai travail journalistique, hein, un vrai témoignage, mais aussi qui sont d'une esthétique incroyable. Donc moi, c'est ça. C'est ça ma plus belle découverte quand j'ai travaillé là-dessus. C'est via le travail d'André-Louis Guillaume.
Et vous, Antoine? En fait, moi, ce qui m'a... Je ne sais pas si c'est une découverte, parce qu'en fait, La découverte, justement, elle est plutôt quand je suis arrivé à Compiègne et que je ne connaissais pas plus que ça Compiègne il y a 4 ans quand je suis arrivé. Et j'ai trouvé que c'était une très belle ville. C'était une ville jolie, agréable. Je vis en centre-ville, c'est un plaisir tous les jours. Et en fait, c'est ça que raconte ce livre. Il raconte, mais en fait, pourquoi Compiègne, ça ressemble à ça. Et depuis que j'ai travaillé sur ce livre, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Alors, ce n'est pas un changement révolutionnaire, mais quand je reçois des amis qui ne sont pas de Compiègne et que je leur fais visiter la ville, bah, maintenant, je peux leur expliquer, ah, bah, voilà, ici, ça a été fait par Jean-Philippe pour telle raison. Cette rue-là, elle est large parce qu'elle est comme ça. Ici, il y avait, à la place du cube du marché aux herbes, il y avait telle halle et en fait, ça ne marchait pas.
Et, remplacer les guides conférenciers, ce métier si dur à Compiègne, c'est ça?
Bah, en fait, d'abord, les guides conférenciers de Compiègne, ils font un métier super. Mais en fait, je pense parler pour tout le monde, on fait tous guides conférenciers quand on reçoit des amis
bien
dans
sûr,
notre ville.
Bien sûr, évidemment. Et pour vous, Frédéric, c'est quoi la découverte que vous avez faite sur cette histoire-là?
Moi, c'était plutôt sur la partie... les ruines, c'est la première partie du livre sur les bombardements. Alors évidemment, je connaissais les grandes lignes du conflit et de la guerre, notamment à Compiègne. Sur la partie reconstruction, comme les photos, on les a inventoriées, classées, etc., la découverte, pour nous, elle était moins là, même si les photos sont magnifiques. Sur la partie bombardement, il a fallu, pour le coup, travailler l'histoire, les bombardements de 1940, les bombardements d'avant la libération. Et donc, il y a eu tout un travail aussi, pour moi, un peu de remise à niveau sur cette période que je ne maîtrisais plus, pour aussi inscrire cette temporalité et que ça soit cohérent par rapport aussi à l'ouvrage. On ne pouvait pas ne pas parler quand même de cette période aussi dramatique.
Alors ce qui est assez dingue, c'est que moi j'ai découvert, c'est que en fait la reconstruction s'est faite carrément pendant la guerre, quoi. Il y a eu des baraquements qui ont été construits tout au long de la guerre pour... Alors j'aurais pensé que la ville aurait été détruite et ensuite on aurait reconstruit à la fin de la guerre. Mais non, tout au long de la guerre, on a construit.
Alors, la reconstruction n'a pas commencé en tant que telle pendant la guerre. En revanche, le plan, enfin, la projection sur la reconstruction, oui. Et les baraquements, en fait, ont été installés provisoirement très vite, à partir de 1941-1942.
D'abord pour les commerces.
D'abord pour les commerces, et d'abord essentiellement jusqu'à la libération pour les commerces compiénois, des rues de Solferino, place du Change, mais aussi des rues plus lointaines. Et ce n'est qu'à partir de la libération et au moment où les commerçants ont pu être progressivement, ça a été long, hein, relogés dans les nouveaux logements, les nouveaux immeubles, notamment rue de Solferino, que certains baraquements ont été réutilisés pour loger des personnes qui n'avaient plus d'immeuble, en fait, de logement.
Oui, mais en fait, votre question, elle est hyper intéressante, parce que pour nous, la guerre, c'est 39-45. Mais en vrai, il y a un armistice en 40. Donc, du point de vue des Allemands, du point de vue du gouvernement de Vichy,
c'est la fin de la guerre.
En fait, en 40, la guerre, elle est finie, et donc, il faut reconstruire. Donc, il y a des plans de reconstruction dès ce moment-là. En fait, c'est une illusion. La guerre, elle continue, la résistance, elle se met en place rapidement. Les Allemands, ils ont du mal quand même, dès 1942, à tenir les trucs. Parmi les forces d'occupation, en fait, dès 1942, ils en récupèrent une partie. Ils mettent les nobles à l'abri en Allemagne, alors qu'ils étaient là jusqu'en 42. Enfin, c'est une situation hyper compliquée, la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, il n'y a pas d'argent pour reconstruire. Donc, ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire que les plans de reconstruction, dès 1940, début 1941, on a déjà des plans de reconstruction et on est prêt. Sauf qu'en fait, on n'a pas du tout les moyens, ni logistiques, ni financiers de le faire. Et du coup, c'est pour ça que la vraie reconstruction, elle commence en 47.
Oui, sauf pour le pont. Où le pont, il y a déjà des choses de lancer pendant la guerre, même si, effectivement, comme le disait Antoine, l'armistice était signé. C'est le seul point à Compiègne un peu changeant, mouvant pendant la guerre.
Ce qui en a fait d'ailleurs un chantier tout à fait particulier dans le cadre de la reconstruction. Et moi, ce qui m'a marqué aussi en faisant les recherches sur le sujet, c'est de voir justement, effectivement, comme tu le dis Antoine, on manque de moyens, mais pour autant, on ne manque pas d'ambition, je trouve, dans ces visées, dans ces plans de reconstruction à Compiègne. Et voilà, ça, c'est ce qui m'a marqué.
On peut voir à l'intérieur, notamment, il démonte le... Alors, ce qui est dingue, c'est la construction, quoi. Comment c'est fait, parce qu'on a pu voir arriver le nouveau pont. On voit comment sont montées les piles et ensuite, comment on refait venir les pierres, etc. Enfin, c'est pas comme le nouveau pont où on a fait venir le pont de deux blocs et qu'on les a posés tout simplement. Là, il y a vraiment une grosse construction, enfin très entrepris, quoi. Là, on va faire une courte pause musicale, on va se retrouver juste après, on va écouter un titre d'Eminem et on parlera encore du livre. Il est disponible à la librairie des Signes, il est disponible du coup
à l'Office du Tourisme,
Office du Tourisme
et chez Cultura.
Et chez Cultura.
If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbity choke. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. As we move toward a new world order, a normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These fools is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These fools don't want him no more, he's cold product. And they moved on to the next mo who flows.
Eminem sur Radio Graphite 94.9, www.graphite.net, c'est la matinale. Bon lundi, bon courage si vous allez au boulot, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ce matin, on parle d'un livre qui vient de sortir, qui est disponible, on l'a dit déjà, à la Librairie des Signes, chez Cultura, mais également à l'Office du Tourisme. Ça s'appelle « Des ruines à la Renaissance, 1940-1955 ». C'est édité par la ville, c'est au prix de 20 euros. Courez l'acheter, il est vraiment très très beau. On continue un petit peu de parler de cette reconstruction de la ville de Compiègne. Alors là, en antenne, on parlait un petit peu de ça, mais il y a plein de petites photos qui rappelle en fait des choses d'aujourd'hui. Notamment, on peut voir une photo du Saint-Hubert qui existe toujours. On peut voir la photo des nouvelles galeries, où certaines personnes appellent toujours les nouvelles galeries. C'est un choix ?
Oui, c'est un choix. On a voulu, effectivement, on n'avait pas le choix. Il fallait montrer les ruines. Dans les premières photos, on est assez surpris. C'est assez désolant même de voir la ville rasée pour une partie, notamment dans le quartier du centre-ville. Mais un certain nombre de quartiers ont pu être préservés et on retrouve des marqueurs que tous les Compiénois peuvent très vite identifier. Et donc, c'est un jeu dans ce livre. À la fois, on peut parcourir le livre et repérer ce qui est immuable à Compiègne, certains commerces, le Saint-Hubert, vous en avez parlé, certaines pharmacies. Et puis, parfois, le commerce a changé ou il s'est déplacé. Mais malgré tout, on peut se repérer très facilement dans Compiègne, même si la ville a beaucoup changé.
Comment ça s'est passé, les bombardements ? Expliquez-nous, parce que alors, si j'ai bien compris, le pont a été piégé par les Français, ça a été bombardé par les Allemands, ça a été bombardé par les Alliés.
Oui, il y a eu plusieurs périodes. En 1940, bombardement plutôt du centre-ville avec développement d'un incendie qui a ravagé le centre-ville ancien de Compiègne, qui était
en bois principalement.
Voilà, avec des constructions et des rues beaucoup plus étroites que celles évidemment que l'on connaît aujourd'hui. Et donc le feu, c'est pour cela que le feu s'est aussi propagé plus rapidement.
C'est en gros un peu les rues piétonnes, le format des rues piétonnes.
Oui, c'est un peu dans l'esprit des rues les plus serrées à proximité de la place du Change,
Rue des Lombards,
Vieille Cassine, etc. Ce serait un peu dans cet esprit-là qu'il faut imaginer Compiègne d'avant. Et puis donc l'incendie s'est propagé. Pendant plusieurs heures. Ensuite, la ville était vraiment très touchée sur ces quartiers-là. Et puis, avant la libération, de nouveau des bombardements, mais plus localisés, bombardements alliés américains en l'occurrence, plutôt sur le quartier de la gare, mais qui avait déjà été touché en 1940. Ce que l'on a aussi redécouvert parce que cela aussi a fait l'objet de discussions entre anciens, historiens, etc. C'était pas si clair. Et donc là, on a trouvé des photos évidentes de soldats allemands arrivant sur Compiègne en 1940, mai-juin. Devant notamment les ruines de l'hôtel de Flandre, vous parliez des éléments immuables, ça parle à tout le monde, mais en ruine, mais il n'était pas exactement au même endroit, légèrement plus loin, reculé sur la route, enfin il donnait sur la route, aujourd'hui il est reculé, qui a été totalement détruit dès 1940.
Donc là on a bombardé les accès de chemin de fer, également les dépôts pétroliers, en fait c'était un peu les axes de communication et tout ce qui pouvait servir à l'occupant en fait.
Oui, sur ce deuxième bombardement plutôt, oui.
Quelles sont les choses qui ont créé un peu de polémique entre les historiens où ils n'étaient pas d'accord ?
Non, ce n'était pas qu'on n'était pas d'accord, c'était que effectivement dans la mémoire collective, la gare était plutôt bombardée juste avant la libération et pas en 1940. Voilà, ce sont des points de détail, mais travailler sur le fond à partir des clichés, ça permet aussi de les dissiper tout simplement et puis de repréciser les choses. Et cet ouvrage-là fait la synthèse, mais permet aussi de clarifier un certain nombre de points.
En fait, souvent, c'est plus des précisions. Que des désaccords profonds.
On refait pas des tests complètes.
Et dans la collaboration qu'on évoquait juste avant, il y a aussi ça. Il y a le fait que quand on a une question, on en discute, on échange des points de vue, et souvent en fait on arrive à une hypothèse commune. Par exemple, sur la place du marché aux herbes, une des questions qui se pose, c'est pourquoi on a détruit la halle du 19e siècle. C'est exactement comme à Paris, vous savez, on a enlevé la halle Baltard pour la remplacer par les halles. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que quand même la halle Baltard, une halle en ferronnerie, c'était quand même la classe. Et à Compiègne, c'est exactement pareil. En 1951, on détruit la halle ancienne qui avait été construite par Gaston Stra en 1886-87 et on la remplace par des halettes en béton à l'esthétique contestable, enfin c'est l'esthétique du temps quoi, et qui d'ailleurs ont été détruites au début des années 90. Et entre historiens, la première hypothèse qui avait été posée par Jacques Bernet, qui est un très bon spécialiste de cette période, c'était elle était trop petite. Et quand Jean Philippot, l'architecte qui a dirigé la reconstruction, quand dans sa correspondance, il dit que la halle est misérable. Et du coup, l'hypothèse, c'était oui, misérable, ça voulait juste dire qu'elle ne convenait pas, qu'elle était trop petite. Sauf qu'en fait, quand on a regardé la presse un peu plus, qu'on a un peu cherché, dans la presse, en fait, il surnomme ces halles le gros champignon. Et en fait, la réponse, c'est nous, ça nous semble superbe, cette halle métallique du 19e siècle. Mais en fait, en 1947-50, ils trouvent ça hyper désuet, ils trouvent que ça fait vieillot, ça fait grand-père. Et alors que des belles halettes un peu rectilignes en béton, ils trouvaient ça vachement moderne. Plus moderne et vachement mieux.
Ouais, c'est marrant, l'histoire se répète, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a toujours cette polémique avec le gros cube en verre qui est très moderne, mais peut-être que dans 10 ans, 20 ans, dans 30 ans, 40 ans, peut-être qu'on dira, allez, on le détruit et on refait une place avec une fontaine. vous avez également travaillé avec les journaux, vous avez récupéré, donc l'histoire, c'est aussi dans les journaux, donc aujourd'hui, les journalistes qui écrivent dans la PQR marquent un petit peu l'histoire.
Alors, effectivement, pour faire l'histoire, on a On est parti des photos, puisque c'était le matériel du départ, et c'était aussi, nous, notre volonté de vraiment mettre en valeur ces images, des fonds d'archives, comme on pouvait avoir les uns les autres. La presse est aussi une source très intéressante, et donc nous conservons effectivement des journaux d'hier et d'aujourd'hui, et que nous avons réouverts pour l'occasion, en épluchant les articles qui pouvaient éventuellement documenter les différents événements. Et donc c'était un gros travail aussi de recherche de ce point de vue-là.
Alors Delphine, il y a quelque chose qui vous concerne directement, puisqu'à la base, les musées, enfin le musée Vivenel devait être déplacé. On apprend que le musée Vivenel devait être déplacé. Et également, encore une fois, le musée de la voiture, encore un cheval, pas un cheval de Troie, mais plutôt comment on appelle ça là, quelque chose qu'on voit tout le temps, un serpent de mer, merci. On parlait également déjà du déplacement du musée de la voiture dans un autre bâtiment. Vous le saviez pour l'histoire du déplacement du musée Antoine Vivenel ?
C'était pas vraiment le fait que le musée Antoine Vivenel n'était pas prévu là, mais là on est avant le déplacement du musée dans l'actuel.
Dans l'actuel bâtiment.
D'accord. En fait, parce que le musée Antoine Vivenel, au départ, à l'origine, était dans l'hôtel de ville de Compiègne. Donc aujourd'hui, effectivement, il est dans cette ancienne résidence qui donne sur le parc Songeon. Déménagement qui s'est fait a posteriori.
Mais d'ailleurs, c'est pareil pour la bibliothèque. La bibliothèque municipale, à ce moment-là, elle était dans l'hôtel de ville. Et la question de la mettre dans les salles Saint-Nicolas, de la mettre dans l'hôtel de Songeon, s'est posée. Il y a eu plein d'hypothèses.
C'est où l'hôtel de Songeon ?
C'est là où il y a le musée Vivenel aujourd'hui.
D'accord, ok.
Et du coup, la question s'est posée. Et finalement, on a décidé, au début des années 1950, de construire à l'emplacement du réfectoire de l'abbaye Saint-Corneille et à côté du cloître et sur la place du Change qui avait été complètement détruite au début de la guerre, de construire une nouvelle bibliothèque municipale. Mais ça ne faisait pas du tout consensus. Et le bibliothécaire, enfin le directeur de la bibliothèque à ce moment-là, il était complètement contre. Bon, à mon avis, il avait tort et aujourd'hui, on est très content d'être à Saint-Corneille.
Là, la prochaine chose qui va marquer l'histoire, c'est le déplacement du musée de la figurine, c'est ça ? Vous allez partir au quartier Ordener ?
Effectivement, le musée de la figurine historique va être déménagé sur le site de l'ancienne école d'état-major dans l'ancien Metz. Donc c'est un projet on est en plein travail. Effectivement, je pense que c'est un très très beau projet. Là, le chantier des collections s'est terminé. On va travailler sur le projet, la nouvelle muséographie, et il y a de quoi faire. Et voilà.
C'était le point actu dans cette émission. Ouais. On va revenir. Alors, ce qui est étrange, c'est que par contre, il n'y a pas le musée des mémorials de l'internement et de la déportation. Alors, il y a des petits clins d'œil à l'intérieur où on parle des déportés qui traversent le côté de la gare. Mais pourquoi vous n'avez pas travaillé avec eux ?
Ce n'est pas qu'on ne voulait pas, ça aurait été avec plaisir. En fait, c'est parti justement de notre ligne directrice. On ne voulait pas, même si c'était un sujet très intéressant, faire un livre, raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à Compiègne. Donc, ce n'est pas l'idée du livre.
Pas sur les habitants, mais sur la vie.
Voilà. On a expliqué un petit peu quelle était la vie quotidienne, mais c'est très résumé. Et on n'a pas effectivement du tout abordé la question de la déportation, du camp d'internement et de la déportation de Compiègne. On n'a pas du tout évoqué le phénomène de la résistance. On n'est pas rentré dans ce domaine-là. D'autres livres sont à écrire, mais on a vraiment voulu se centrer cet ouvrage sur l'évolution de la ville à travers le bâti et l'urbanisme et à travers les photos. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas tout dire et tout écrire. Et donc, dès l'introduction, on a voulu le préciser pour ne pas décevoir le lecteur, en fait, et qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche.
Oui, c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'il y a un vrai choix éditorial qui est dans le livre, qui est de se concentrer sur la reconstruction, les ruines, le centre-ville. Enfin, il y a vraiment une orientation très claire. Et puis, on est parti quand même des sources iconographiques et de ce qu'on voulait montrer. Mais en fait, il y a un énorme travail à faire encore sur plein d'aspects. Et en travaillant sur le livre, régulièrement, on s'est posé des questions en se disant « Ah bah, il y a peut-être un article ou il y a peut-être un livre là-dessus. » Et bah non, en fait, il n'y a rien. Et on a des fonds d'archives, on a des fonds à la bibliothèque qui sont encore à étudier. Donc, s'il y a des étudiants qui cherchent des sujets de recherche en histoire, ou s'il y a tout simplement des personnes qui sont intéressées par l'histoire et qui, en amateur ou en semi-professionnel, veulent faire des recherches historiques sur Compiègne, il faut vraiment se rappeler que c'est possible, que nous, on est des institutions qui sont aussi à la disposition des chercheurs professionnels ou amateurs, et qu'on a deux sociétés historiques à Compiègne qui, justement, font vivre l'histoire et qui sont toujours heureuses d'accueillir de nouveaux membres et des nouvelles personnes intéressées par ça.
C'est vrai que ça, c'est important à souligner, hein, ce que dit là Antoine. C'est-à-dire que nous sommes, nous, établissements culturels, nous avons pour viser, effectivement, quand on accueille des donations, de mettre, effectivement, de valoriser, que ce soit les objets, les dessins ou les archives que nous accueillons, de valoriser ces collections-là. Mais aussi, il faut savoir que ces collections sont à disposition des chercheurs. Parce que le but aussi, c'est de que la recherche se poursuive. Il y a encore plein de choses à découvrir, à étudier dans nos collections qui sont très vastes, très variées. Hein. Le musée Antoine Vivenelle, c'est un musée qui a des collections très larges. Et donc ça, c'est aussi une de nos missions très importantes.
J'avais une question d'ailleurs qui n'a rien à voir avec le livre, mais j'ai découvert récemment qu'un dépôt de fondeur avait été découvert chez un ancien maire de Compiègne. Est-ce que ce dépôt est actuellement au musée Vivenelle ?
Non.
Peut-être qu'il est parti au musée départemental. Ou... Bon, j'ai retrouvé ça justement en regardant le petit bouquin des sociétés historiques. Alors, je ne sais pas c'est lequel des deux, mais on peut le retrouver sur Internet. C'est photocopié, ça date des années 60, il me semble. Et donc, ça parle d'un dépôt de fondeur.
Oui, c'était une découverte archéologique qui avait été faite dans une propriété de M. Fournet-Sarlevès, c'est ça. Moi, c'est un sujet que je ne connais pas du tout, mais je crois que c'est dans les annales historiques compiègnoises qu'il y avait eu
Absolument. Donc je me posais la question de savoir où elles étaient, et aussi peut-être que ça avait été gardé par les musées compiègnes. Là, il y a un tome 3 qui est déjà en préparation.
Non, il n'est pas encore en préparation. Certains de nos amis historiens se projettent déjà. Pour l'instant, j'ai un peu plus de difficultés. J'essaie déjà d'apprécier la sortie de celui-ci. Mais pourquoi pas ? Effectivement, comme le disait Antoine, nos fonds... la recherche est sans fin. Et ne serait-ce que sur les archives d'André-Louis Guillaume, nous n'avons à peu près inventorié, numérisé et donc valorisé qu'en partie ici, qu'environ 30% de ce qu'on nous a donné. Il nous reste des boîtes à découvrir que pour l'instant on n'a pas encore, ne serait-ce qu'ouvertes, contenant des photographies de portraits, notamment de certains compiénois, de grandes familles compiénoises, mais aussi d'enfants. Enfin, donc on peut retrouver, en plus elles sont, on a les noms, les prénoms, donc on va pouvoir retrouver et réidentifier ces personnes, ce qui est très assez précieux, et c'est pas si souvent le cas. Et puis on a aussi des photos des villes des environs. Donc dans le cadre nous de notre mutualisation, puisque les archives sont mutualisées maintenant au niveau de l'agglomération, on peut aussi valoriser ce fonds aussi auprès des collectivités voisines, et on a aussi, et c'est très intéressant, des photos de la construction des quartiers de la Victoire, du Clos des Roses.
Les quartiers plus récents.
Mais non, est-ce qu'on est obligé de partir sur un tome 3 qui serait la suite encore d'un point de vue chronologique ? Peut-être pas, mais peut-être que cela pourrait intéresser des chercheurs, mais aussi les Compiénois, de travailler sur d'autres quartiers que ceux du centre-ville et de la gare.
Oui, mais Frédéric a vraiment raison. Il y a un travail immense à faire sur ce qui n'est pas le centre-ville de Compiègne.
Bien sûr.
Sur le développement de Bellicart, sur le développement du Clos des Roses. L'histoire de la Victoire, c'est absolument passionnant quand on se penche là-dessus. En plus, c'est des quartiers où on a encore des témoins directs de quand ils ont été construits. Donc dès que vous parlez avec des gens, des vieux Compiégnois qui ont connu la naissance de ces quartiers-là, c'est ultra émouvant et c'est complètement passionnant.
La Bellicart, on s'en approche un petit peu dans le livre. On va jusqu'au pont de Soissons, le pont SNCF de Soissons. C'est, voilà, la frontière,
oui,
elle s'arrête là.
Il y a déjà des constructions à Bellicart à partir de, bien sûr, des années 1920-1930. Mais le quartier s'est vraiment développé ensuite. Et c'est vrai que pour la Victoire, pour le Clos des Roses, on a, nous, des dossiers qui n'ont que peu été ouverts. Alors, par certains historiens qui ont déjà travaillé sur le livre, donc c'est pour ça qu'ils sont assez volontaires, parce qu'ils ont déjà de l'avance. Sur moi, par exemple, et peut-être sur d'autres. Et donc, voilà, il y a certainement un terreau fertile pour faire quelque chose. Après, on verra quelle sera la commande et si déjà cet ouvrage-là est bien reçu, peut-être qu'on aura de nouveau l'envie de repartir pour un tour.
Comment ça se passe d'un point de vue droit pour les... Du coup, là, ils vous ont mis à disposition cette collection. C'est un don. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les associations historiques peuvent sortir des bulletins issus de cette collection-là ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est une excellente question et c'est souvent complexe à gérer pour nous, la question des droits de réutilisation. Alors, pour ce qui est du don des photographies d'André-Louis Guillaume, la famille a été très claire. Elle nous a fait un don et nous a autorisé à réutiliser les photos dans le cadre de notre valorisation patrimoniale et de nos outils de publication, mais aussi exposition ou même de mise en ligne sur Internet. Un projet qui devrait aboutir dans les prochains jours. On aimerait le faire coïncider avec la sortie du livre samedi, la mise en ligne de près 1000-1200 photographies. Et on essaye aussi, on va voir si on y arrive d'ici samedi, de sortir une carte interactive avec le positionnement des photos par des petites bulles pour pouvoir retrouver les photos en cliquant et pouvoir se balader à Compiègne tel qu'on pourrait le faire à pied. Donc, pour les photos d'André Louis-Guillaume, c'est relativement simple. Pour l'entreprise, pour les photos d'entreprise Butin, ça l'est également, puisque nous avons de très bonnes relations avec eux. Et donc, clairement, on les interroge et ils donnent toujours leur accord, bien sûr.
Il faut reconnaître que c'est une vraie volonté de la famille Hutin, depuis longtemps, de valoriser le patrimoine photographique compiénois. Ils tiennent à être mentionnés, ce qui est bien normal. Mais la famille Hutin est très généreuse en termes de valorisation. Et ils ont une sensibilité et une conscience de la nécessité de valoriser l'histoire de Compiègne qui est remarquable.
Les bulletins historiques pourraient être un petit peu comme dans les comics ou dans les mangas. Est-ce qu'on pourrait avoir des petits feuillets de 20 pages sur une partie de l'histoire et puis ensuite le numéro 2, numéro 3, numéro 4 et à la fin on sort un album complet?
Alors, c'est certains articles déjà dans les annales historiques de la société d'histoire moderne et contemporaine sont parfois ou à tiroir ou à suite, mais pourquoi pas, c'est une longue tradition, les découpages d'articles en plusieurs morceaux et de publications comme cela en série, pourquoi pas. C'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas du tout été envisagé, mais tout est possible.
Je donne des fois des pistes, hein, comme ça. Je demanderai d'être crédité à la fin du livre. Et là, vous êtes relativement jeunes, tous les trois. Est-ce que les gens des sociétés historiques, pareil, c'est un public jeune ou est-ce qu'on arrive à voir des lycéens, des collégiens, des étudiants? Est-ce que l'histoire passionne encore les jeunes générations?
En fait, les sociétés historiques, elles sont composées de gens assez divers. Il y a des personnes assez âgées, il y a des personnes toutes jeunes. Et c'est ça qui est agréable, en fait. C'est que des occasions, justement, de parler d'histoire de manière très égale, en fait, entre générations, on n'en a pas tant que ça. Et c'est à ça qu'elles servent, nos associations. Après, est-ce qu'il y a les lycéens, ils ne sont pas vraiment dans les associations, mais on les croise régulièrement. Et puis, nous, on a la volonté d'aller vers ce public-là. Pour vous donner une idée, on est en discussion avec des étudiants de l'UTC pour que la société historique tienne un stand à l'Imaginarium de Compiègne. Parce qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire, on ne sait pas exactement encore quoi, un quiz, une animation, justement, sur l'histoire. Et souvent, quand on parle avec les étudiants de l'UTC, ils sont hyper désireux de connaître mieux l'histoire de la ville où ils habitent. Souvent, ils sont arrivés à Compiègne pour leurs études et ils sont hyper intéressés par le fait de connaître des vrais Compiégnois, c'est-à-dire des Compiégnois qui ne vivent pas en cercle clos dans l'UTC. Hein. On peut être vrai Compiégnois même si on y habite depuis 3 mois. Et puis de connaître mieux simplement l'histoire de l'endroit où ils viennent. Et évidemment, comme les étudiants de l'UTC ou des lycéens, ça apprend très vite. C'est super comme public pour nous.
On va commencer par les lieux festifs. Enfin, même s'il n'y en a plus beaucoup en ce moment, on pourra commencer par l'histoire des lieux festifs à Compiègne.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas vraiment un lieu festif, mais pas loin. Un de vos collègues du Courrier Picard me posait la question en début de semaine de l'histoire du Puy du Roi, qui va connaître une grande rénovation dans le cadre de l'ANRU. Et du coup, on se pose la question de l'histoire de ce bâtiment et de cet ensemble, qui est hyper intéressant du point de vue urbanistique. Mais en fait, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'historien qui s'est penché là-dessus. Frédéric m'a confirmé l'autre jour qu'il y a des tas de choses aux archives, mais il faut bosser, quoi.
Ouais, il y a un petit auditorium qui est installé, enfin qui est presque construit dans ce bâtiment.
Ouais, mais en fait vous avez l'espace dans le Gendre qui est quand même un lieu culturel important. Vous avez la bibliothèque Mourichon depuis la fin des années 70. Il y a eu un bowling à une époque. Il a failli y avoir un cinéma et puis finalement il y en a pas. Il y a eu les archives qui n'y sont plus depuis 2 ans.
Vous avez des beaux bâtiments.
Nous avons déménagé il y a 2 ans maintenant. Mais effectivement, pendant très longtemps, pendant une trentaine d'années, nous étions aussi Puy du Roi. Donc effectivement, cet équipement a vu aussi succéder beaucoup de services publics, mais aussi associatifs, des commerces qui est de l'autre côté de la rue. Et donc il y a effectivement tout un travail à faire et de nombreuses recherches qui n'ont été faites pour l'instant par personne à notre connaissance. Mais peut-être qu'on aura aussi de belles découvertes.
On va écouter un extrait musical de la programmation de Graphite. On se retrouve juste après. C'est la matinale. On est encore ensemble pendant une vingtaine de minutes. Bon courage si vous allez au boulot.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé, la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.
lundi. Un lundi méchant. Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux. Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Un lundi méchant. Comme un lundi. Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'inventer et chauffer, chauffer, bah t'entends les pulsations dans tes tympans, hein. Chanter, chanter, c'est qu'encore écouter, écouter lundi méchant.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Comme un lundi.
Gaël Faye sur les ondes de Graphite 94.9 www.graphite.net. Comme un lundi, la matinale le lundi, on parle toujours des ruines à la Renaissance. Le livre vient de sortir, Compiègne 1940-1955, édité par la ville de Compiègne. On le retrouve, on vous le rappelle si vous ne l'avez pas encore entendu, donc à l'Office du Tourisme de Compiègne. On le retrouve à la Librairie des Signes, on le retrouve chez Cultura et peut-être en vente également aux bibliothèques de Compiègne et au musée quand ça sera réouvert. Voilà. On le souhaite le plus rapidement possible.
Oui.
Là, c'est quelles sont les choses que vous avez pas mis dans le livre et que vous auriez bien voulu mettre et que vous êtes dit bah on n'a pas cette place et on peut pas le mettre maintenant.
Alors effectivement, la sélection notamment des photos a été complexe. Il y a à peu près 90 photos. Il y a aussi quelques documents iconographiques, mais peu par rapport au précédent livre. On a été beaucoup plus on s'est vraiment consacré aux photos, donc il y a moins de plans, moins de documents d'archives, il y en a quelques-uns, donc on a une centaine d'illustrations, mais il a fallu faire des choix parfois difficiles, notamment sur la partie reconstruction. Sur les parties bombardement, c'était plus compliqué, il n'était pas simple de faire des photos prises dans l'instant pendant les bombardements, donc sur cette période-là, on était un peu moins fournis. Par contre, à partir de 1947 jusque dans les années 60, on était très très richement dotés, donc il a fallu choisir la photo la plus intéressante, la photo qui allait davantage parler. Donc on a plein d'autres photos tout aussi intéressantes qui peut-être seront mises en ligne déjà. Et puis peut-être qu'il y aura des projets en parallèle de petits films de valorisation. Et puis voilà, il y aura certainement d'autres publications à venir et donc d'autres photos qui seront réutilisées pour d'autres projets que les nôtres. C'est le tout principe.
Il y a une expo de prévue ou pas? Une nouvelle expo sur une autre partie? Donc la dernière expo c'était sur les ponts. Est-ce qu'il y a une expo de prévue entre vos trois établissements?
Sur cet ouvrage-là, non. Donc la dernière exposition que l'on avait faite avant le livre présentait une sélection des plus beaux clichés, mais n'avait pas pour thème des ruines à la Renaissance. On avait vraiment voulu montrer le travail du photographe et de l'architecte à travers des clichés les plus beaux, en fait. Donc il y en a quelques-uns ici reproduits, mais d'autres n'ont pas été ici sélectionnés parce qu'ils n'étaient pas dans le thème. Après, effectivement, on pourra tout à fait réenvisager des partenariats. L'avantage d'André Louis Guillaume, c'est qu'il a photographié Compiègne sur toutes ses coutures sur 30 ans. Donc, si un jour on veut travailler sur un projet d'exposition ou d'ouvrage sur tel bâtiment, avec tel angle, etc., ou sur tel quartier, on peut pas tout faire, mais on peut faire beaucoup. Et on peut même travailler sur de l'histoire de famille, sur des personnages. Par exemple, les bibliothèques ont fait, il y a très récemment encore, un important travail de valorisation autour de la collection de Daniel Boulanger, un écrivain important à Compiègne. Antoine en parlera mieux que moi. Et il n'y a pas plus tard que pas longtemps, on a trouvé dans une boîte deux portraits d'André-Louis Guillaume, un portrait de Daniel Boulanger pris par André-Louis Guillaume, jeune, à son retour en fait dans Compiègne, dans le Compiègne bombardé. Et évidemment, on aurait aimé pouvoir la sortir au moment où Antoine et ses collègues travaillaient sur l'exposition, mais c'est toujours le principe, c'est que des fois on trouve le document qu'il nous fallait, qui aurait été intéressant de trouver avant, mais on le trouve après. Donc c'est sans fin, et en même temps, c'est toujours le jeu de la frustration et dans la recherche, et on fait des liens entre nous. Et donc sur Daniel Boulanger, si un jour il y a de nouveau des projets, on saura qu'elle existe cette photo.
Bah moi, c'était une de mes frustrations, c'est de ne pas pouvoir aller plus loin dans certaines choses sur lesquelles moi j'avais travaillé en travaillant sur Daniel Boulanger, notamment la place du change et l'évolution de la place du change entre la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, où c'est une place très commerçante avec des commerces qui évoluent. C'est très
intéressant. On le voit un petit peu dans le livre,
on le voit un tout petit
quelques
peu,
baraquements, quelques
mais on le voit très peu quand même. Et du coup, ça c'était un peu une frustration, mais on ne peut pas tout faire. Et puis, je suis content parce que j'ai quand même réussi à caser dans le livre une belle anecdote de Daniel Boulanger qui pour moi exprime complètement ce que c'était que la destruction de Compiègne au début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une histoire que Daniel Boulanger racontait souvent à ses enfants. Et il s'en rappelle très très bien aujourd'hui, il la raconte souvent. C'est que quand il est revenu, Compiègne a été évacué en mai 40 au moment des bombardements. Et puis ils sont revenus assez tôt, en juin 40. Et quand il est tout jeune à ce moment-là, il est lycéen, il doit avoir 14 ans. Et il revient avec sa famille et il passe par la rue Saint-Corneille. Il s'apprête à aller place du Change, rue du Change. Et en fait, son père sort ses clés de sa poche pour rentrer à la maison et puis il tourne le coin de la rue. Et ben, les clés servent à rien puisqu'il n'y a plus de porte, puisqu'il n'y a plus de maison. Et dans les photos d'André Louis Guillaume et dans certaines photos Hutin, on voit très bien, et il y a une, je ne sais pas si on l'a mise dans le livre, mais on va peut-être la valoriser d'une autre manière. Et en tout cas, on l'avait mise dans l'exposition il y a un an et demi. Il y a une photo incroyable où on voit en fait le pan de mur et les ruines devant, et où on comprend exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrivez de la rue Saint-Corneille, vous avez le pan de mur, vous vous dites « Ah super, ma maison, elle est là ». Puis vous tournez le coin de la rue et vous voyez les gravats et vous dites « Bah, ma maison, elle n'est pas là ». Et pour la famille Boulanger qui entendait cette histoire depuis 50 ans, c'était incroyable de voir ces photos.
De voir la photo, hein, de voir l'image. Hein. Ce qu'ils avaient imaginé, ils l'ont vu enfin en vrai.
Oui, et puis c'était assez flou, en fait. Vous savez, vos parents vous racontent des choses, vous vous dites « Bon, on ne sait pas à quel point c'est exact, etc. » Là, vous vous dites « Ah ouais, en fait, d'accord, c'est exactement ça. »
J'espère que vos
parents
ne vous écoutent pas. Hein.
mes parents, je vérifie toujours ce qu'ils disent, hein, de toute façon. Mais ça, c'est mon côté un peu historien. C'est, je croise les sources, je croise entre eux, je vérifie avec des membres de la famille. Mais ils ne racontent pas n'importe quoi, mais parfois, ils ont leur point de vue.
Là, est-ce qu'il y a encore des acteurs vivants? Est-ce qu'il y a encore des témoins vivants de cette période-là? Ou ils sont malheureusement tous morts?
Oui, il y a encore des acteurs, ou en tout cas des témoins, sur la partie reconstruction, davantage encore. Et donc, il est intéressant de pouvoir aussi confronter les souvenirs. Et parfois, les souvenirs s'estompent, parfois, ils s'avèrent justes. Et donc, c'est intéressant de pouvoir travailler aussi avec ces témoins pour pouvoir avoir leur vécu, leur ressenti. Donc oui, il y a effectivement encore des possibilités et peut-être que ce livre va nous permettre d'avoir des témoignages, on peut très bien l'imaginer, ou voire même des documents d'archives complémentaires, pas forcément photographiques, mais ça peut être aussi des documents liés à la vie quotidienne qui auraient été jusqu'ici pieusement conservés ou précieusement conservés et qui finalement pourraient ressortir des greniers ou des placards en disant finalement, ça sera plus utile et de le partager, de le transmettre. C'est tout le défi et toute la générosité de la famille d'André-Louis Guillaume et de ses petits-enfants, c'était de dire ce patrimoine-là,
il est à tout le monde.
Ouais. Il est à tout le monde. Et puis nous, alors certains sont encore à Compiègne, d'autres ne le sont plus, mais finalement, ils se dessaisissent de leur héritage d'une certaine manière pour en faire profiter les Compiénois et plus largement l'ensemble des habitants du territoire, puisqu'on a d'autres photos de l'Oise, et ils auraient très bien pu le garder pour eux, en fait, ce trésor. Hein.
Est-ce que vous avez, alors évidemment, nous on fait de la radio, du coup, ce qui nous intéresse, c'est l'audio. Est-ce que vous avez des témoignages audio de cette période-là? Parce qu'on sait que souvent, l'audio, c'est un peu compliqué. Je regardais récemment des photos de Richard Dugovic des années 90-99, et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait assez peu de témoignages audio de savoir cette période-là, comment les gens parlaient, les accents.
C'est effectivement... Ce sont des sources très intéressantes. Aux archives, on a très peu. Alors, on essaye de temps en temps, en parallèle de ce que l'on peut faire, de faire des enregistrements. On n'a pas toujours le réflexe.
Puis les technologies ont beaucoup évolué.
Mais
aussi.
C'est sans doute un tort parce que il faut profiter aussi des témoins. Il faut valoriser cette parole. Donc, on tente de le faire. Certains services d'archives sont très dynamiques sur cette politique de collecte de témoignages. J'avoue que pour l'instant, on n'était pas sur cette optique-là par manque de temps essentiellement, non pas parce qu'on n'y croit pas, mais ce serait certainement à faire. Et puis peut-être que là, à l'occasion du livre, alors c'est difficile parce qu'on ne peut pas faire de conférences de présentation du livre, on peut difficilement inviter notamment les plus anciens pour les faire parler autour de cette histoire, mais peut-être que le livre se diffusant, on arrivera, une fois que l'on pourra réunir de nouveau des groupes, de pouvoir discuter, échanger et pourquoi pas trouver les bonnes personnes qui pourront nous raconter et qu'on enregistrerait.
Bien sûr. Et du coup, là, la question, c'est quelles sont les personnes encore vivantes que vous connaissez là? C'est des commerçants, des habitants, des...
Alors, ça peut être certains habitants, mais par exemple, dans le livre, nous avons quelques photos issues d'une collection, de la collection de Jean-Claude Lécuru, qui n'habite plus Compiègne, mais qui a grandi à Compiègne et qui est collectionneur.
qui n'est pas historien de métier, mais qui est un historien finalement de terrain, passionné, enfin en tout cas collectionneur assumé, et qui a donc pendant toute sa vie collecté des images, des photos, etc. Et la collection a été rachetée par la ville il y a maintenant 2 ans, et donc certains documents sont issus de ses collections. Mais lorsque je lui ai présenté certaines photos et j'ai voulu savoir un peu ce qu'il en pensait, il m'a dit, mais tu sais, moi, les baraquements...
Je les ai connus.
Bah, je les ai connus, et non seulement je les ai connus, mais j'ai acheté mes bonbons dans tel baraquement, à tel endroit, avec monsieur ou madame. Bon. Donc, effectivement, on peut retrouver des personnes qui ont connu enfants, ou même parfois plus âgés, notamment les baraquements, les travaux, les chantiers. Et alors, parfois, les souvenirs sont un peu flous, mais on retrouve toujours des marqueurs forts. Et puis, évidemment, ils étaient souvent jeunes et enfants, donc l'anecdote des bonbons n'est pas neutre. Forcément, on retrouve ce type de réflexe-là plutôt que le regard de l'historien d'aujourd'hui ou de la personne adulte que l'on peut l'être aujourd'hui.
C'est marrant que tu parles de ça, parce que pour moi, une des personnes très importantes, justement, en mémoire de Compiègne, parce qu'ils ne sont pas si vieux, en fait, ces gens, c'est Jean-Pierre Duterne, qui est secrétaire de la Société historique, qui est quelqu'un d'extrêmement aidant et d'extrêmement intéressant. Et quand je travaillais sur la place du Change, j'essayais de reconstituer un peu, j'essayais de comprendre où était tel commerce, alors que je n'avais pas toujours des photos de tout, je n'avais pas toujours des plans très précis. Et il me disait, ah ben non, non, là, il y avait forcément ça, puisque ça sentait cette odeur de chocolat, c'était génial. Et puis à côté, de l'autre côté de la place, il y avait le truc qui vendait du café, ça sentait super bon. Et donc, on a parfois cette mémoire très sensorielle, qui est une mémoire d'enfant, qui est ultra touchante, et qui, en fait, fait tout à fait partie de des sources qu'on peut utiliser pour reconstituer parfois de manière un peu méticuleuse le plan d'un quartier.
Il me semble qu'aux archives, vous avez une salle d'exposition en plus dans vos nouveaux locaux.
Pas une salle. On a une salle de consultation. Donc effectivement, les archives sont ouvertes au public, c'est gratuit. Donc on peut y faire des recherches, qu'on soit étudiant, passionné ou même historien. Voilà, c'est ouvert. Une salle d'exposition sera aménagée justement cette année. C'est fait partie de notre projet d'aménagement, puisque ce bâtiment va se faire par phase. Et donc, le projet d'exposition devrait aboutir en fin d'année à l'aménagement d'une salle qui nous permettra de pouvoir faire de l'accueil, notamment de groupes scolaires, de pouvoir proposer des ateliers, mais aussi de petites expositions en complément de ce que l'on peut faire déjà dans les lieux d'exposition déjà existants. Antoine a dit que, effectivement, nous avions déjà proposé des expositions, en tout cas une récemment au cloître, mais on a l'habitude de travailler soit à l'espace Saint-Pierre-des-Minis, mais aussi au CAV pour nos expositions. Ce sera un lieu supplémentaire, mais plutôt un lieu dédié davantage à l'accueil de groupes que d'expositions.
Antoine, vous, comment on accède au cellier ?
Comment on accède au cellier ? Alors en ce moment, il faut envoyer un mail et puis c'est sur rendez-vous. Mais d'habitude, on a des horaires d'ouverture qui font partie des horaires d'ouverture de la bibliothèque. Et on disait tout à l'heure avec Delphine que c'est effectivement une grosse part de notre travail d'accueillir des chercheurs. Et pour nous, des chercheurs, ça peut être des étudiants, ça peut être des journalistes, ça peut être simplement des personnes qui sont intéressées et qui font une recherche à titre personnel.
Donc on peut avoir accès aux livres aussi qui sont au fond, cachés ?
Oui, ouais. De toute façon, tout est accessible. Simplement, ce n'est pas comme une bibliothèque publique. Ce n'est pas comme la partie publique de la bibliothèque.
Là,
vous
ne parlez
pas dans les rayonnages. Il faut regarder dans le catalogue et vous les demandez et on vous les apporte.
Delphine, comme vous êtes fermée, est-ce que vous êtes en train de rechercher dans vos collections des choses inédites ? Est-ce que vous avez le temps ? Comment ça se passe en ce moment pour vous ?
Alors nous, en fait, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur la conservation préventive. Donc ce sont des opérations de nettoyage ou de restauration des œuvres qui le nécessitent. Et parfois, ce sont des œuvres qui sont dans le parcours d'exposition permanente. Donc on peut profiter de cette période pour effectivement ne pas avoir de public dans les salles et pouvoir travailler tranquillement là-dessus sans être précipité par la réouverture ou les horaires d'accès au public. Donc ça, c'est l'avantage. Et sinon, nous, actuellement, on poursuit le travail de fond pour se préparer. On a en ligne de mire la prochaine exposition temporaire qui sera consacrée à Albert Robida. Albert Robida, l'explorateur du temps, donc un illustrateur, dessinateur, caricaturiste qui est originaire de Compiègne, qui a légué une œuvre incroyable. Et on a un fonds très important et dans les bibliothèques de Compiègne et au musée Antoine Vivenel, avec notamment des nouvelles acquisitions qu'on a réalisées en 2018. Donc le but de cette exposition, c'est de valoriser tout cela. Et donc nous, on a vraiment ça comme ligne de mire. L'exposition doit ouvrir pour la nuit des musées le samedi 15 mai. On espère que ça va pouvoir se faire. Donc on y travaille pour et nous, on sera prêts en tout cas.
Vous pouvez parler également pour votre collègue du Mémorial qui va aussi faire une exposition sur, je crois que c'est Gaëtan Nock, c'est ça ? Qui revient cette année ?
Oui, effectivement. Alors, je ne peux pas parler à sa place, mais effectivement, si tout se passe bien également de ce côté-là, mon collègue Aurélien Gnat du Mémorial a pour objectif de faire au mois de juin une nouvelle édition d'un festival bande dessinée historique à Compiègne. Donc, effectivement, il travaille également là-dessus avec une mise en valeur notamment du travail de Gaëtan Nock.
Merci beaucoup Delphine Janot, rappelle que vous êtes directrice des musées de Compiègne. Merci Antoine Thorens, directeur des bibliothèques de Compiègne. Et merci Frédéric Guyon, directeur des archives de Compiègne et son agglomération. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On rappelle le livre, il s'appelle « Des ruines à la Renaissance 1940-1945 », c'est sur Compiègne. Et aux éditions éditées par la ville de Compiègne, en partenariat avec les sociétés d'histoire moderne et contemporaine de Compiègne, la société historique de Compiègne, les archives, les bibliothèques, les musées. Au tarif de 20 €, toutes les informations, vous les retrouverez sur le podcast, sur la page Facebook de la radio. Merci beaucoup, à très bientôt.
Tout le monde est beau, la vie est belle. Le Truman Show sur toutes les chaînes. Je lèche des crapauds pour me déterre. Plus on m'aime, plus je me déteste. Y'a le paradis sur la marelle. L'enfer est sous mes TN. Martin Luther avait un rêve. Vaut mieux pas qu'il se réveille. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. J'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Sur vos tombes, j'irai cracher, danser en claquette. Le prêtre achète sa coke avec l'argent de la quête. Je m'en fous de tout, moi, tant qu'on fait la fête. J'ai la cravate autour de la tête. Qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui crèvent dehors? On en avait assez, on en voulait encore. On va plutôt les cacher sous terre. Faut pas qu'ils gâchent le décor. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. Bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Mes Nike sont faites par les Ouïghours. On fait des stories, pas de longs discours. Les ados se droguent parce qu'ils s'emmerdent à mort. C'est 100 € la demi-heure d'amour. Ça n'existe pas si c'est pas entêté. J'prie pour que le banquier me laisse m'endetter. Popcorn et comédie raciste au ciné. Finalement c'est une grosse grippe qui a tout décimé. Masqué, j'attends le retour de la peste. On n'est que les cobayes d'un grand test. Mais je garde le smile jusqu'aux oreilles. Tant qu'il me reste des cigarettes. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. J'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Putain d'époque.